première, 15h-16h. Majuscule, Eddy Kakelbergs.
Bon dimanche, bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous majuscule. Dans un instant, des nouvelles de Christophe Colomb. Figurez-vous qu'on le pensait italien, espagnol, pas du tout. Il est portugais, c'est en tout cas ce que va nous narrer Jean Lemaître dans Signé Zarco. On aura des nouvelles aussi depuis la Suède. Hein. Ça va très très mal au comité du Nobel de littérature. Vous allez voir qu'on ne sort pas du tunnel. On aura des séquences vacances en deuxième partie avec un très beau livre, Là où les eaux se séparent, signé Laurent Gélin et Jean-Arnaud de Reims-Sapi. Puisque c'est l'été, on va commencer à vous parler festival. On aura une incursion en Avignon, mais aussi à la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. Vous le voyez, des rendez-vous majuscules.
15h-16h, majuscule sur la première.
Eh bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Quittez immédiatement tout ce que vous avez pu croire savoir à propos de Christophe Colomb. Non, il n'y a pas chez lui de piste italienne. Non, il n'a pas forcément une puissance qu'il détient de l'Espagne. Figurez-vous qu'il est plus que probablement descendant par la noblesse royale de Portugais, et que tout ce que vous croyez savoir se révèle faux. Et celui qui vient nous le dire vient de Signé Zarco. Signé Zarco, c'est le titre du livre de Jean Lemaître. Bonjour Jean Lemaître.
Bonjour.
Max, votre chercheur, votre cherchant, débarque à Cuba, non pas l'île, une bourgade de l'Alentejo portugais, au bout de l'Europe, comme vous dites. Une légende y circule, hein, c'est que Cristoforo Colombo, en fait, il est portugais.
C'est plus qu'une légende, parce que notre ami Max, en arrivant sur la grande place par hasard de Cuba, de l'Alentejo, aperçoit à côté du café où il déguste une bonne bouteille de vin blanc, une statue en bronze de Christophe Colomb où il est dit, sans hésitation, ici est né Christophe Colomb dans la bourgade de Cuba.
Mais alors, pourquoi a-t-on oublié de nous le dire aussi souvent que l'histoire nous l'a raconté ?
Les Portugais ont de l'imagination. Il y a aussi un vieux conflit entre le Portugal et l'Espagne. Il y a des tendances de récupération nationaliste, voire régionaliste de l'histoire. Donc directement, Max, le chercheur, l'enquêteur, bon vivant par ailleurs, se dit « il faut que je vérifie cette histoire » et il va s'établir à Cuba pour enquêter et essayer de démêler le vrai du faux. En réalité, l'idée soulignée par des écrivains ou des historiens portugais, qu'il est évident que Christophe Colomb était originaire de Cuba parce qu'il aurait donné le nom de Cuba au Cuba des Caraïbes, île qu'il a découverte lors de son premier voyage.
Avouons qu'il croyait que c'était le Japon.
Chipango, au Japon, oui, puisqu'il allait découvrir, il était en route pour découvrir les Indes, dont le Japon, par l'ouest et non pas par l'est, parce qu'il était convaincu déjà que la Terre était ronde.
Oui, ce qui est un énorme pas en avant pour son époque. Hein.
Ah, tout à fait, bien sûr.
On pouvait éventuellement même encore passer au bûcher, pratiquement, pour affirmer de telles choses qui étaient contraires aux écrits.
Absolument.
Alors, c'est un roman plaisant, c'est aussi le roman d'un amoureux, vous l'êtes, du Portugal. Ça se sent, c'est le paysage, c'est la volupté, c'est l'amour des gens qui s'y trouvent, l'amour de cette histoire. On va y retrouver notamment aussi une belle allusion à l'un de vos précédents écrits, hein, sur ce chant qui a rythmé Villa Morena, la révolution des œillets, parce qu'à un certain moment, on chante évidemment la canción de Che Guevara, mais aussi Villa Morena.
Grande de la Villa Morena, mais aussi bien d'autres chants populaires qui n'ont rien à voir avec le fado. On connaît souvent du Portugal le fado qui se chante avec une espèce de ferveur religieuse. Ici, c'est tout à fait différent. Le cante, on l'appelle le cante de l'Alentejo, est un chant vraiment qui remonte à très très loin, la nuit des temps, et qui se chante en chœur et non pas en solo. Et dans cette région du Portugal, la région de Cuba, qui est à l'ouest de l'Alentejo, pas loin de la frontière espagnole, on le chante a cappella, c'est-à-dire sans instrument de musique. Vraiment, c'est pur. C'est un chant qui, contrairement au fado, n'exprime pas une espèce de soumission à un destin, mais au contraire, est très lié au travail, à la terre, à la pensée des gens. Quand vous dites « je suis amoureux du Portugal », Max est amoureux du Portugal, bien entendu, mais amoureux en particulier de l'Alentejo, qui, dans ce pays très diversifié en termes de culture, de paysage, de chansons, occupe une place vraiment à part.
Allez, on revient à cette signature Zarco, parce qu'évidemment, c'est toute l'ascendance probablement royale de Christophe Colomb, qui serait né des amours, certes, de sa mère, mais avec un grand du Portugal.
Avec un grand du Portugal, qui était le duc de Beja, le duc Fernando de Beja. Et alors là, c'est après avoir démonté l'hypothèse de Cuba pour Cuba, en fait, c'est très facile à démonter, il suffit de lire le carnet de bord de Christophe Colomb, qui affirme, au contraire d'historiens portugais plus ou moins sérieux, que, en fait, Cuba des Caraïbes vient du nom Cubanan, qui est un nom du dialecte ou de la langue amérindienne. Cela dit, la deuxième piste, parce que Max démarre sans grand-chose à se mettre sous la dent, c'est la fameuse signature que Christophe Colomb a utilisée après qu'il fut arrivé en Espagne, à partir du moment où il a entrepris son premier voyage. Il a très peu parlé de sa jeunesse, il a quasiment pas parlé de sa jeunesse, ce qui est effectivement une porte ouverte à toutes les légendes, à toutes les interprétations, à toutes les affabulations parfois. Et Christophe Colomb signait d'un paraphe où s'entremêlaient la lettre S, la lettre F et la lettre Z. Alors là, Max n'a rien inventé. Effectivement, en superposant ces trois lettres, on obtient le paraphe de Christophe Colomb. Et certains disent que le Z renvoie à Zarco, le F au duc Fernando de Beja, et le S serait une allusion à Christophe Colomb, Christophe, le sauveur, le Salvador, le sauveur. D'où l'hypothèse que l'enquêteur Max a essayé de démêler pour tirer le vrai du faux, qu'en réalité, Christophe Colomb, né en 1451, était le fruit d'une idylle extra-conjugale, adultérine, entre le duc Fernando, tout jeune, déjà marié mais tout jeune, et la fille de João Gonçalves Zarco, qui était non seulement d'origine noble, comme le duc Fernando, aussi d'origine juive. Et de cette liaison entre Isabelle et Fernando serait né Christophe Colomb quelque part dans l'Alentejo.
Il faut, découvre Max et se dit Max, il faut d'ailleurs que Christophe Colomb soit d'ascendance noble pour qu'il puisse épouser celle qu'il a épousée.
Ah ça, bien sûr. Et c'est peut-être une petite plus-value dans le livre qui mélange les réflexions subjectives et puis l'histoire, l'enquête, les faits. Il est établi, personne ne le conteste, qu'en 1479, Colomb, qui était arrivé au Portugal, s'est marié avec une Portugaise, Filipa Pérez Trello, qui était d'origine noble. Et pour se marier avec une noble, il fallait soi-même être noble. D'autant plus que le papa de Filipe Pérez Trello faisait partie de l'ordre de Santiago, qui était un ordre très secret, et qui avait comme tâche première de maintenir tout à fait secrète les cartes maritimes portugaises. C'était une véritable affaire d'État. Et donc là, c'est vraiment une contradiction dans la version italienne. C'est ce mariage. Il ne fallait pas que par le mariage, des étrangers puissent mettre la main sur les secrets d'État du Portugal.
Max, on ne l'a pas encore dit, mais c'est un fraîchement retraité de l'enseignement. C'est donc un acharné de la vérité à transmettre.
De la vérité à transmettre et aussi soucieux de ne pas établir une thèse préalable et puis chercher les faits qui la confortent. Et d'être ouvert à toutes les opinions et aussi, puisqu'il était dans l'enseignement professeur de journaliste, soucieux de vérifier les sources, soucieux d'obtenir de l'information contradictoire et soucieux aussi de pas seulement éplucher les livres, les généalogies, les hiéroglyphes, mais d'enquêter au plus près du terrain à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'il est convaincu, Max, l'ancien professeur, que s'il y a une vérité, on ne peut l'atteindre qu'en en établissant des liens dialectiques entre différents domaines. Or, la plupart des gens, des historiens, des écrivains parfois, qui ont enquêté sur Christophe Colomb et sur d'autres domaines de l'histoire, privilégient un domaine. Par exemple, la politique intérieure, moins l'économie ou le social ou le culturel. Et donc, Max, qui est disciple d'Edgar Morin, pense que s'il y a une vérité, s'il y a une connaissance à trouver, elle se situe à l'intersection de recherches multisectorielles.
Ouais, et c'est piquant quand même, Jean Lemaître, d'avoir un prof retraité qui se met à tailler des croupières au manuel scolaire.
Oui, mais ce prof retraité pense que l'école, c'est important, mais que la pédagogie à l'école, elle doit peut-être changer. Et il est inquiet de la prolifération de tous ces outils, Facebook, PowerPoint, etc., qui sont parfois des machines à oublier de penser, de confronter les sources, d'aller en profondeur. Donc cet ancien professeur est un chaud partisan d'enquêtes de longue durée. Bon, évidemment, Internet peut être un support, mais il a été effrayé de voir que certains de ses élèves, surtout dans les dernières années, utilisaient uniquement Facebook comme outil d'investigation.
Alors, on est quand même dans une grande tradition d'histoire, parce que c'est un grand découvreur, tout simplement, auquel il s'attaque. Un homme qui va connaître les fastes, mais pas jusqu'au bout.
Pas jusqu'au bout. Il va connaître... Donc, Colomb est parti en Espagne en 1484. Il a dû attendre jusque 1492 pour partir, pour avoir le financement de la couronne espagnole et financer sa première expédition. Ça n'a pas été simple, on pourrait y revenir. Mais lors du troisième voyage, si je me trompe, il est arrêté dans les Caraïbes. Il est traité comme un vulgaire esclave, jeté dans la cale, enchaîné et renvoyé en Espagne pour différentes raisons. Mais l'une d'elles est que la couronne espagnole est très mécontente parce que finalement, Christophe Colomb, ça a coûté très cher ses voyages.
Et ça ne rapporte pas.
Mais non, ça ne rapporte rien. Sinon, quelques pépites toutes petites d'or et les esclaves qu'il a amenés parce que Christophe Colomb, le livre le révèle, voilà. Est loin d'être un saint.
Ça, c'est vraiment la grosse égratignure, à la fois parce que c'était dans l'air du temps, hein. En tout cas parce qu'il faut aussi trouver du financement, on y va allègrement, hein. Le trafic d'esclaves et d'autres choses, il aura touché à beaucoup de choses borderline, comme on dirait maintenant.
Borderline au minimum, bon, on dira que les gens de la noblesse étaient tous comme ça à l'époque, mais c'est pas une raison pour ne pas avoir un jugement critique, qui était un mercenaire qui se vendait au plus offrant. Et ce qui est important de dire, c'est que dès qu'il a mis pied dans les îles des Caraïbes, il a mis la main sur des pauvres gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, pour les ramener en trophée à la couronne espagnole. Alors, c'est aussi, je ne vais pas tout déflorer dans le livre, il y a une chute, forcément, en suspense, c'est une chute. Mais, en fait, Max, l'explorateur, poursuit ses recherches à Madère, du côté de Madère, sur le volet économique, justement. Et il découvre, dans l'hypothèse où, effectivement, Colomb aurait été le petit-fils de Zarco, du noble Zarco, qui était le gouverneur de Madère à cette époque, qu'en fait, il aurait très probablement fait ses premières armes de navigateur en faisant du commerce d'esclaves au début des années 1480, peut-être même un petit peu avant, en allant chercher des esclaves sur le golfe de Guinée, au large de l'Afrique, là où les Portugais avaient établi un comptoir commercial.
Et où, avec
important.
La bénédiction de l'Église, ils pouvaient effectivement, officiellement, commercer le bois d'ébène.
Le bois d'ébène, sordide expression. Avec la complicité de l'Église, mais aussi fait important qui tend vraiment à prouver d'une manière quasi absolue la portugalité de Christophe Colomb, c'est qu'en fait, le roi Juan II du Portugal, à cette époque, qui tenait beaucoup à protéger les conquêtes du Portugal, les Portugais étaient quasi sur le point de tourner le cap de Bonne Espérance et d'atteindre les Indes en contournant l'Afrique, pour aller faire commerce d'esclaves, aller capturer des esclaves pour les ramener à Madère, pour travailler comme des forçats dans les champs de canne à sucre, qui était une matière extrêmement florissante et qui valait beaucoup d'argent dans le commerce international. Il fallait absolument non seulement que les bateaux furent portugais, mais aussi que les membres de l'équipage furent portugais. Or, dans son carnet de bord, Christophe Colomb dit lui-même, et dans les témoignages d'autres sources d'information, qu'il a fait des allers-retours vers le golfe de Guinée. Donc il est impossible matériellement
qu'il
ne soit pas portugais.
Donc, signé Zarco, c'est une certitude. Zarco, c'est Christophe Colomb, c'est sa signature, c'est son paraphe. Peut-être pas né à Cuba, mais en tout cas, avec certitude, portugais.
De sang royal, de sang noble et de nationalité portugaise.
Vous allez vous faire plein d'ennemis à Barcelone, Jean Lemaître.
Oh, pas si sûr. Il y a Jeanne peut-être aussi.
Oui, certainement. Merci en tout cas. Ce Christophe Colomb portugais, signé Zarco, c'est votre roman, mais votre enquête surtout menée avec Max.
C'est un roman reportage dans l'histoire où je mêle le présent, le passé.
Vous le publiez chez Mémogramme. Merci d'être venu nous en donner le goût de l'aventure.
Merci à vous.
Vem ver, vem ver, a muçuca como é. As meninas samba muito com os tamancos no pé. Vem ver, vem ver, vem ver, a muçuca como é. As meninas samba muito com os tamancos no pé.
Et à présent, cap à nouveau sur la Suède avec ce scandale qui frappe l'Académie du Nobel de littérature. On nous dit à présent qu'il y a un calendrier très incertain pour les prochains prix Nobel de littérature. Peut-être, nous disait-on, que celui de 2018 serait donné en même temps que celui de 2019. Eh bien, plus rien n'est sûr. Nous joignons notre confrère Christian Katomeris, qui est journaliste, documentaliste à la TV suédoise et qui prépare entre autres un documentaire sur ce fameux scandale. Bonjour Christian Katomeris.
Oui, bonjour.
Donc, aujourd'hui, il semble que l'Académie est littéralement explosée et qu'il n'y a plus moyen de la réunir.
C'est un blocage total entre certains qui sont sortis de l'Académie sans en sortir vraiment. Donc, il y a un blocage parce que l'Académie vit d'après des vieux statuts de l'époque de Gustave III en 1780 et quelques. Et ces statuts disent qu'il faut être suffisamment nombreux, par exemple, pour exclure des gens, pour faire venir des nouveaux académiciens, maintenant qu'il y en a des membres qu'on a perdus. Vous voyez, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue pendant toute cette histoire de 230 années, à peu près, quoi, de cette académie. Et donc, je crois qu'ils sont à peu près 11 aujourd'hui. Il faut être 12, par exemple, pour élire des nouveaux membres. Et aussi pour le travail de l'élection d'un prix Nobel. Donc la situation est très bloquée par rapport au prix Nobel, qui est quand même le grand travail, le travail le plus connu de l'Académie suédoise, qui fait aussi un dictionnaire, etc., comme ailleurs. Et c'est le comité Nobel, qui n'est pas lié à l'Académie, qui est représentant du testament d'Alfred Nobel, qui a voulu ses prix, qui a probablement fait pression sur l'Académie pour ne pas le distribuer cette année, parce qu'on sent que la situation est si grave, il y a une perte de confiance qui fait qu'on ne veut pas risquer des problèmes au niveau international.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de date limite et que peut-être que l'an prochain, 2019, on ne remettra ni le prix Nobel 2018, ni le prix Nobel 2019. Est-ce qu'on a une idée de l'issue ?
Alors déjà, il y a eu ce printemps l'intervention du roi, qui a interprété les statuts, puisque le roi est le protecteur de l'Académie, de telle manière qu'il était possible de changer les statuts, que lui était capable de changer les statuts. Donc il a déjà changé un statut, c'est-à-dire qu'il est possible de quitter l'Académie lorsqu'on est vivant. Donc on pourrait remplacer des membres qui maintenant veulent la quitter. Le problème, c'est que qui est-ce qui veut la rejoindre ? Le deuxième problème, c'est il y a des membres qui ne participent pas au travail, mais qui ne l'ont pas tout à fait quitté. Donc, on est toujours dans le problème d'arriver à ce chiffre 12, ils sont 18 en tout, qu'il est possible d'obtenir avec ce seul petit changement. Donc, est-ce que on pourrait voir cet automne, carrément, on en a parlé, une dissolution de l'Académie et qu'on recommence à zéro avec des nouveaux membres? Est-ce que le roi irait encore plus loin? Et là, ça serait encore la guerre, je pense, cette fois-ci, entre le roi et les membres de l'Académie qui se sont toujours considérés, malgré cela, comme indépendants. Donc, c'est une situation très complexe. Ça pourrait prêter à rire dans un certain sens, mais vu la portée internationale de cette Académie avec son prix, ça cause des problèmes à beaucoup de gens ici.
Merci pour cette précision sur un avenir qui ne s'annonce pas tout à fait rose pour le Nobel de littérature. Un dossier à suivre. Merci en tout cas de nous en avoir donné les derniers développements. Christian Katomeris, je rappelle que vous êtes journaliste à la TV suédoise et que vous préparez précisément un documentaire sur ce scandale de l'Académie du Nobel de littérature. Les innocents nous parlent d'un monde parfait. Les cercueils, les cyclones.
perdibles les membres inférieurs. Comme le cœur, on cherche un emploi. Tout reste plié. Cette idée terrible, on a douillés intérieurs. D'aujourd'hui devenu autrefois. D'ailleurs, on est tous autour.